journal, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous, un nouvel avertissement des agriculteurs au gouvernement. Blocage routier ce mardi dans la France entière. Une mobilisation pour dénoncer le CETA, l'agribashing et la détresse du monde agricole. Trafic quasi normal à la SNCF aujourd'hui. La SNCF qui finalement ne poursuivra pas en justice les cheminots grévistes. Autrement dit, l'affaire du droit de retrait n'ira pas au tribunal. À l'étranger, les Chiliens maintiennent la pression sur le président Piñera. Ils le rassurent vouloir trouver des solutions pour améliorer leur vie. Des free parties pas si libres, encadrer davantage les rêves parties, quelle que soit leur taille, une proposition de loi des Républicains qui sera examinée aujourd'hui au Sénat.
Et puis au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, à 7h50 aujourd'hui, le président du groupe Renault et de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, j'ai nommé Jean-Dominique Senard.
France Inter.
Il ne supporte plus, Laurence, d'être critiqué et montré du doigt. Les agriculteurs manifestent aujourd'hui dans toute la France.
Opération Escargot, barrage routier comme un cri de détresse déjà lancé le 8 octobre dernier, mais sans aucun résultat du côté du gouvernement. Manifestation à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Les sujets de mécontentement sont nombreux. Les accords de libre-échange, CETA et Mercosur, leurs revenus en berne, les intrusions de militants antispécistes sur les élevages, plus largement le sentiment d'un dénigrement de plus en plus grand de leur profession, sans parler des dernières normes envisagées qui ont mis le feu aux poudres, les zones de non-traitement aux pesticides. Reportage Cédric Lito.
Étienne Villemin a vu le métier évoluer, le monde bouger autour de l'agriculture, à tel point qu'il redoute parfois de sortir le pulvérisateur pour traiter une parcelle aux pesticides.
Quand on sort avec un pulvér, on nous traite de tous les noms. J'ai deux, trois copains qui se sont fait presque agressé dans les champs. On réduit nos doses, on regarde toujours sur le bidon et on met toujours tous un peu moins que ce que la dose est homologuée.
Question de toxicité et de coût, ces traitements reviennent très chers. Les prix de vente, eux, ne suffisent pas à couvrir les frais de production. Dans le même temps, le nombre de suicides dans la profession augmente. Étienne Villemin dit ne pas y avoir pensé, mais il admet avoir des idées noires parfois.
Vous arrivez sur l'exploitation, vous êtes bien et puis vous entendez des choses. Hein. Vous avez vu la radio qui est toujours là. Et puis vous avez des problèmes sur l'exploitation, puis vous vous dites, mais franchement, qu'est-ce que je fous là, quoi ?
Étienne Villemin dit pouvoir compter sur sa famille. L'agriculteur attend désormais de partir à la retraite, mais il s'inquiète pour son fils qui prendra la suite.
Moi, je serai complètement libéré, ça je peux vous l'affirmer. Mais je sais que lui, il y sera. Si on reste pas là pour le soutenir, parce qu'il aura besoin de soutien comme on a tous besoin de soutien, je pense que ça sera très dur.
Avec un risque, selon lui, pour l'autonomie alimentaire de la France, avec des jeunes de moins en moins intéressés par la profession.
Trafic quasi normal aujourd'hui à la SNCF, ou comment la direction de la SNCF a gagné son bras de fer. Selon nos informations, l'entreprise n'ira pas en justice finalement, après avoir menacé de le faire samedi par la voix de son président Guillaume Pepy, épaulé par le Premier ministre Édouard Philippe. On imaginait déjà un remake de la bataille juridique de l'an dernier, lorsqu'il s'était agi de payer les jours de congé aux grévistes, mais l'affaire du droit de retrait ne finira pas au tribunal, Maxime Debs.
Hier soir, à la direction de la SNCF, l'heure était au rétropédalage. On ne va pas saisir un juge maintenant. On l'aurait fait si les agents n'étaient pas revenus au travail, mais le trafic a repris. Et c'est l'essentiel. Grand bluff ou coup de pression réussi. Les menaces de Guillaume Pepy conjuguées à celles d'Édouard Philippe ont payé. Les cheminots absents, informés de possibles retenues sur salaire, ont eu peur pour certains. Qu'importe s'ils étaient ou non de bonne foi en invoquant leur droit de retrait, mieux valait reprendre le travail plutôt que de risquer de perdre sa paye. Dans le flou général, la SNCF a quelque part réussi un coup de poker. Elle, qu'on a quand même un peu vue dans ses petits souliers hier, avec deux courriers arrivés sur son bureau de la part de l'inspection du travail. Deux courriers qui n'allaient pas vraiment dans son sens et qui auraient pu augurer un revers pour l'entreprise. Revers à plusieurs millions, sachant que les amendes sont lourdes en cas d'entrave au droit de retrait. Le risque était peut-être trop élevé, d'autant qu'au final, encore une fois, c'est l'essentiel pour la direction. Les cheminots sont revenus travailler.
Maxime Debs, plus de fermeté contre les rêves partis non déclarés. C'est ce que réclame le groupe Les Républicains au Sénat via une proposition de loi. Le texte sera débattu en séance publique cet après-midi. Actuellement, les organisateurs de free parties, de fêtes techno, de plus de 500 personnes, se font systématiquement saisir leur matériel. Ils doivent payer une amende de quelques milliers d'euros. Mais le texte propose d'étendre ces sanctions à toutes les tailles de rassemblement. Caroline Félix.
Le texte propose que toutes les raves, y compris les toutes petites, soient obligées de se déclarer aux autorités. La sénatrice Pascale Bory l'a rédigé.
Les commandants de gendarmerie qui sont concernés par cette problématique, parfois n'ont pas les outils pour pouvoir intervenir.
Sans déclaration de rave, les gendarmes pourront donc saisir le matériel. Renard fréquente des free parties et pour lui, c'est contre-productif.
Se retrouver avec une répression pour les petits événements oblige de l'autre côté la communauté techno à se réunir sur des gros événements illégaux à 25 000 personnes où le rapport de force est tel que les pouvoirs publics ne peuvent plus rien faire.
C'est la situation dans laquelle s'est retrouvée Sainte-Luce-sur-Loire. Il y a 10 jours, la petite ville a accueilli 17 000 personnes.
Accueilli n'est pas tout à fait le bon terme. Elle a subi l'accueil d'un technival, effectivement, qui a donc forcé le passage par surprise, évidemment.
Jean-Guy Alix est le maire de Sainte-Luce. Il reconnaît un calvaire pour ses habitants, mais la répression n'est pas la solution, d'après lui.
C'est un fait. Aujourd'hui, on sait que ce genre de rassemblement a lieu. Plutôt que de l'interdire, il vaut mieux essayer effectivement de le canaliser, de négocier. Une préfecture est capable de trouver dans un département et de proposer des sites tout à fait appropriés et loin de toute habitation. De toute façon, on ne peut pas empêcher ça.
L'année dernière, il y a eu 800 rave parties en France et seuls 2 ont été déclarés puis autorisés par un préfet.
Il est 7h35. Après le Chili, c'est en Bolivie qu'éclatent de violents incidents.
Affrontements avec les forces de l'ordre, incendie de bâtiments, saccage après la publication de résultats contestés de la présidentielle. Le principal adversaire du président sortant, Evo Morales, dénonce la fraude électorale. Carlos Mesa ne reconnaît pas les résultats de cette élection qui donne le chef de l'État vainqueur dès le premier tour. D'ailleurs, les observateurs de l'Organisation des États américains présents en Bolivie pour l'élection ont fait part de leur inquiétude et de leur surprise face au revirement inexpliqué du résultat qui donne Morales quasiment vainqueur maintenant dès le premier tour. Fronde politique en Bolivie, fronde sociale au Chili, celle-ci ne faiblit pas dans ce pays de 18 millions d'habitants réputé pour sa stabilité ces dernières années. Des milliers de personnes étaient encore rassemblées hier sur la Plaza Italia dans le centre de Santiago, au lendemain des 11 victimes d'affrontements violents. Après l'annulation de la hausse du ticket de métro, les Chiliens attendent maintenant des mesures concrètes pour réduire les inégalités dans le pays. Reportage à Santiago de Clara Dantec.
Des milliers de personnes étaient rassemblées sur la Plaza Italia dans le centre de Santiago lundi après-midi. Une manifestation pacifique durant laquelle les Chiliens ont exprimé leur colère vis-à-vis du gouvernement de Sebastián Piñera. Yolanda Badestrello est retraitée.
Le gouvernement n'a pas su répondre à la demande du peuple qui réclame moins d'inégalités sociales, une meilleure santé publique, une meilleure éducation. Ici, tout est privatisé. Les salaires sont très bas. 70% des Chiliens gagnent moins de 700 dollars.
Yolanda reproche au gouvernement son absence de réponse face à la crise sociale. Suite aux violents incidents de ces derniers jours, Sébastien Piñera a déclaré « Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant ». Il a même parlé d'organisation criminelle. Une rhétorique insupportable pour Camila Santin, lycéenne de 18 ans.
Nous ne sommes pas en guerre, il n'est pas bête, Piñera. Je crois que sa stratégie, c'est de nous tourner les uns contre les autres. Le gouvernement n'utilise plus le mot manifestant, il parle de délinquants, de vandales. C'est une stratégie pour diviser tout ce mouvement, mais il n'y arrivera pas.
De nombreux manifestants sont restés longtemps dans les rues de Santiago ce lundi, même après le début du couvre-feu qui a été décrété pour la troisième nuit consécutive dans la capitale chilienne. Santiago, Clara Dantec, France Inter.
Ajoutons que dans un message à la nation, le président conservateur Sébastien Piñera doit réunir aujourd'hui l'ensemble des forces politiques pour trouver des solutions à la crise. La crise en Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou jette l'éponge après avoir tenté en vain de former un gouvernement. Il va demander à son adversaire centriste Benny Gantz de dégager une majorité au sein du Parlement. Cette annonce est un important revers pour Netanyahou qui, après plus d'une décennie au pouvoir, entend se maintenir à la tête d'Israël. Au Canada, les libéraux de Justin Trudeau en passent de remporter les législative, mais le Premier ministre sortant dirigera un gouvernement minoritaire selon les projections. Trudeau, affaibli dans ce scrutin, devrait donc trouver l'appui de plus petits partis à la Chambre des communes pour se maintenir au pouvoir. Avortement et mariage gay légalisés en Irlande du Nord, contrairement au reste du Royaume-Uni où il est autorisé depuis 1967. L'avortement était jusqu'ici illégal en Irlande du Nord, sauf si la grossesse menaçait la vie de la mère. Vous avez aimé Opération Copperhead, vous adorez le nouvel album de BD de Jean Arambat. Le Détection Club réunit tous les maîtres du polar anglais des années 20-30 pour résoudre une énigme, une BD drôle et philosophique qui rend hommage au roman policier. Jacqueline Pétrose.
Enthousiasmant ce Détection Club, créé fin des années 20 et existant toujours, il avait alors à sa tête J.K. Chesterton, auteur très populaire, et parmi ses 7 membres, la grande Agatha Christie. Jean Arambat nous embarque avec eux sur une île de Cornouailles où un milliardaire excentrique voulant remplacer les auteurs par un robot est assassiné. Nous voilà en plein Cluedo. Jean Arambat.
Ce jeu policier, on le mesure mal aujourd'hui, c'était vraiment un jeu intellectuel pour les lecteurs des années 30. Il y avait des codes à respecter, un peu comme un jeu de société, par lequel, en tout cas Chesterton et puis d'autres aussi, pouvaient aborder des aspects presque philosophiques de façon plaisante. Donc je voulais jouer avec toutes ces conventions, donc l'île, la chambre close, le milliardaire, et que ce soit le reflet d'inquiètudes plus contemporaines.
Chesterton et Christie mènent l'enquête, piques et complicités garanties.
Il était très haut en couleur, il avait un espèce de chapeau de cow-boy, une canne épée, il paraît qu'il se promenait toujours avec une bouteille de Bourgogne sur lui. Agatha est plus impassible. Je l'ai calquée sur un de ses propres personnages à elle, en fait, Ariane Oliver, qui était une version parodique, fantasque d'elle-même. J'avais envie d'en faire un dynamique duo qui s'envoie des petites vannes comme ça et qu'on devine une tendresse entre les deux.
Humour so British, dessin très panthère rose, le talent de Jean Arambat fait de cette fable policière une comédie subtile des plus agréables à lire.
Détection Club de Jean Arambat.
Merci Laurence Thomas, il est 7h40.